Vous allez bien? Oui? Cool. Moi, tout. Je trouve qu'on a une belle année. Plein de choses que Dieu nous réserve cette année. Et pour le vrai, j'ai hâte de voir tout ce qu'il y a pour nous. J'ai hâte de voir parce que les choses merveilleuses qu'une église peut vivre, ça peut juste venir d'en haut. Parce que les voies des hommes ne sont pas les meilleures. Mais Dieu, il y a des plans super bons. Et cette année, avec ce thème où on explore ce que Jésus voulait dire quand il disait « Je bâtirai mon Église », qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait « Église », on veut vraiment le laisser nous parler. C'est vraiment notre cœur. Et ça veut dire le laisser nous parler, bien, c'est qu'il vous parle à chacun de vous et qu'on puisse partager ensemble. Qu'est-ce qu'on reçoit du Seigneur, puis comment Jésus voit l'Église. Et depuis de l'année, c'est un petit peu ça qu'on décortique. Puis jusqu'à maintenant, on a décortiqué beaucoup le passage qui est dans Matthieu 16, où ce que Jésus a prononcé cette parole-là. Je vous ai fait un petit résumé de tous les différents messages qu'on a eus depuis le début de l'année, la semaine passée. Aujourd'hui, je vous rappelle ce que j'ai dit la semaine passée parce que ça se connecte bien gros avec ce que je vais vous apporter aujourd'hui. On a parlé beaucoup la semaine passée de c'est quoi l'Église. On vous a parlé de ce qu'on avait reçu en prière, confirmé par Anne quand elle était venue prêcher. Sans qu'on se parle, elle avait le même message. C'est que l'Église, pour Jésus, c'est des gens partout. Des pierres vivantes, des personnes qui ont connu Jésus et qui sont partout sur la terre. Et depuis 2000 ans, c'est ça pour Jésus, l'Église. Et je ferai même une parenthèse pour vous dire, dans les années noires où ce que ça allait vraiment mal dans le leadership de l'Église, où ce que des fois c'était complètement à côté de la traque, complètement en dehors du plan de Dieu, l'Église de Dieu existait encore à cause des gens qui avaient l'Esprit Saint en eux et qui étaient partout sur la terre. Donc, les clergés, que ça ait été bien ou mal dans l'histoire de l'humanité, ça ne l'a jamais empêché l'Église d'être là et de continuer à semer le plan de Dieu. Parce que l'Église, ce n'est pas à l'intérieur d'une religion, ce n'est pas à l'intérieur d'une bâtisse, ce n'est pas à l'intérieur d'une dénomination quelconque. L'Église, c'est les enfants de Dieu qui se promènent partout sur la terre et qui apportent le feu de Dieu, l'espoir de Dieu, l'amour de Dieu, la guérison de Dieu, la délivrance de Dieu partout où ils vont. C'est ça l'Église. Donc, c'est sûr que Dieu, il veut que ceux qui enseignent, ceux qui organisent un peu son Église, il veut quand même qu'ils marchent avec lui. Mais même s'ils ne marcheraient pas avec lui, dans le fond, Dieu, il dit, mon Église, moi, elle n'est pas là en dessous d'un dôme administratif ou religieux. Mon Église, elle est partout sur la terre et elle répand ma bonne saveur. Donc, c'est ça que je vous ai parlé principalement la semaine passée. C'est ça, l'Église. C'est chacun partout. Et ici, ce qu'on vit le dimanche matin, ça, c'est la réunion de l'Église. La réunion de louanges. En anglais, j'aime la façon qu'ils appellent ces réunions-là du dimanche matin, qu'on appelle nous autres soit l'assemblée, soit le culte. Eux autres, ils disent le worship service. Ça veut dire le service d'adoration. Alors, toutes les églises aux États-Unis, anglophones, c'est the worship service. C'est le service d'adoration. C'est pour ça qu'ils se réunissent. Le but, c'est d'adorer Dieu ensemble. Mais ce service-là d'adoration, ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est tout le monde partout, tout au long de la semaine. Et c'est ça que je vous ai parlé la semaine passée. Et j'ai parlé un petit peu de la Chine, en se disant comme en Chine, ça se multiplie, puis ils sont obligés de se cacher pour se réunir, puis il faut qu'ils fassent attention, puis des fois, ils ne peuvent même pas. Pourtant, ça se multiplie. Comme je vous avais dit, ça a passé de 3 millions à 100 millions en peut-être 30 ans, c'est incroyable là-bas ce qui se passe. Alors, c'est ça, l'Église est à sa place en Chine, puis il faut qu'elle soit à sa place chez nous aussi, c'est-à-dire partout où Dieu nous place. stratégiquement dans nos carrières, dans nos lieux, dans nos villages, dans nos, même nos loisirs. Dieu nous place à des endroits pour qu'on fasse une différence dans ce monde et qu'on répande son royaume. Donc, l'Église locale, elle sert à quoi qu'on a dit la semaine passée? Bien, elle sert à servir les saints. OK? Et les saints, bien, c'est ceux qui changent le monde. Hein? C'est vous autres. Les pierres vivantes. La Bible vous appelle aussi des prêtres. OK? Donc, les prêtres, ce n'est pas celui qui est en soutane, en quelque part, dans un monastère. C'est vous autres qui se promenez partout, en jeans, puis comme vous voulez. C'est ça, les prêtres. Hein? Et vous êtes aussi les temples remplis du Saint-Esprit qui brillent et qui goûtent bon, qui brillent, qui goûtent bon et qui sentent bon aussi. Une odeur de Christ. Moi et Lise, on aime beaucoup Bible Project. Qui connaît ici Bible Project? Il y a plusieurs. Vous irez voir ça, Bible Project, sur l'Internet. Ils ont beaucoup de stuff en français. Mais il y avait une vidéo qui allait tellement avec mon message qui n'était pas en français. Fait que ce qu'on a fait, moi puis Lise, vous boucherez les oreilles, ceux qui aiment beaucoup la technologie, parce qu'on a fait ça hier sur le bord de mon petit ordi ordinaire, sans micro, sans rien. Mon Benjamin, il m'a chicané. Il dit, t'aurais pu aller chercher au moins la carte de son pour faire ça mieux. En tout cas, le but, c'était de traduire le message. Ce qu'on va voir visuellement, OK? Fait qu'on va juste mettre ce petit clip-là qui reflète exactement ce qu'on dit dans les dernières semaines.
Si vous vous rendiez à Jérusalem, au temps biblique, la plus grosse structure que vous verriez, ce serait le temple. Ce bâtiment était pensé par le roi David et construit par son fils Salomon. Il désirait que ce soit la maison de Dieu sur terre.
Je pensais que c'était le paradis, la maison de Dieu.
En fait, le but du temple était de créer un chevauchement entre la maison de Dieu au ciel et sur la terre. Le temple devait être l'endroit où Dieu vit et gouverne sur toute la création. Mais même Salomon ne croyait pas que son temple pouvait contenir Dieu.
Ben, je le comprends.
Oui, le bâtiment était juste un symbole, alors qu'en fait, toute la création est de Dieu. C'est ce qu'on lit dans la première page de la Bible. Il dit que la création est le temple de Dieu.
Vraiment?
En fait, il n'a pas besoin de le dire textuellement. Toute l'histoire le montre. Dieu crée l'univers à partir de paroles prononcées en 7 jours. Puis le 7e jour, sa présence remplit la création alors que Dieu se repose et règne. De même, le tabernacle et plus tard le temple ont été construits et dédiés en une série de 7 discours étalés sur 7 jours après quoi le prêtre ou le roi pouvait se reposer et régner en présence de Dieu.
Donc l'endroit où Dieu désire habiter, c'est dans toute sa création?
Exactement. Même si on regarde dans Genèse 2, on voit une autre image de la création. Celle-ci a lieu sur terre, dans une région appelée Éden, qui signifie « délice ». Et au milieu de « délice »,
Dieu plante un jardin dans lequel Dieu et l'humanité vivent ensemble.
Oui, c'est pour cette raison que dans le temple, on retrouve plein d'images inspirées de ce jardin. Même le chandelier représente l'arbre de la vie. C'est aussi l'endroit où Dieu habite avec son peuple.
Je vois le parallèle.
Et ce n'est pas fini. Les prêtres israélites et les lévites devaient travailler et garder le temple en présence de Dieu. C'est exactement ce que Dieu avait demandé à l'humanité dans le jardin d'Éden. Ces humains étaient donc les premiers prêtres. Mais au lieu de régner avec Dieu, ils ont décidé de gouverner seuls selon leurs propres conditions.
Et ils ont été exilés de ce jardin-temple.
Et comme Adam et Ève, les Israélites voulaient aussi gouverner selon leurs conditions et ils ont été aussi exilés. Le temple a été détruit. Ils se demandaient même si Dieu les avait abandonnés.
Dieu pensait-il refaire une nouvelle création?
En fait, les prophètes bibliques ont annoncé qu'un jour, Dieu créerait un nouveau temple avec un nouveau sacerdoce et alors la présence de Dieu remplirait toute la création. Alors, quand les Israélites sont revenus d'exil, ils ont reconstruit le temple. Mais les prévisions des prophètes ne se sont jamais réalisées. En fait, les prophètes, plus tard, ont dit que ce temple reconstruit était désespérément corrompu.
Et ils attendent toujours ce temple ultime?
C'est ici qu'on arrive à l'histoire de Jésus. Il disait qu'à travers lui, la présence de Dieu et son règne venaient dans notre monde d'une nouvelle façon. Il s'est présenté comme un nouveau type de prêtre. Pourtant, Jésus n'était pas prêtre et ne travaillait pas dans le temple.
C'est vrai.
Jésus a dit que la présence de Dieu, son repos et son règne rempliraient le monde à travers sa propre vie, sa mort et sa résurrection. Jésus prétendait qu'il était le vrai temple. Et ce nouveau temple s'étendrait à toute la création.
C'est pas une petite affaire.
Et ça s'arrête pas là. Après sa résurrection, Jésus a dit que la présence de Dieu viendrait habiter dans et parmi ses disciples, afin qu'ils puissent devenir des mini-temples.
Des communautés de personnes où Dieu se repose et règne?
Exactement. C'est la vision biblique de l'Église qui est décrite comme un temple. Pas un bâtiment, mais des gens. Comme quand Pierre dit, vous êtes tous des pierres vivantes agencées comme un temple où l'Esprit de Dieu peut habiter.
Donc, à la fin de l'histoire biblique, est-ce qu'il y aura un nouveau temple physique?
Pas exactement. Ce qu'on voit déjà, c'est un temple cosmique renouvelé, tout comme dans Genèse 1. Cette nouvelle création n'a pas besoin d'un bâtiment. Parce qu'à travers Jésus, toute la création est maintenant l'endroit où Dieu se repose et gouverne le monde avec son peuple.
Merci de ne pas applaudir la technologie, mais le message. OK. Vous irez voir ça. Il y a plein de beaux vidéos sur Bible Project. C'est vraiment une œuvre extraordinaire, ce projet-là. Plein de beaux vidéos avec des messages vraiment profonds. Mais celui-là, en particulier, il me parlait beaucoup parce que c'est exactement ce qu'on voit. C'est que l'Église, c'est tous ces temples-là qui se promènent partout dans le monde, et c'est là que réside la présence de Dieu aujourd'hui, sur la terre, pas ailleurs, juste là. Et de là, il se répand, et il continue de se répandre depuis 2000 ans. Par contre, c'est beau à dire que là, je vous demande d'être les temples de Dieu, puis de faire la différence dans le monde, puis tout ça, je nous demande ça, mais... Notre réalité, c'est que ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Ce que je veux vous emmener aujourd'hui, c'est une clé. Une clé que je me sers, mais que j'ai besoin de me rappeler constamment pour pouvoir vivre, je vous dirais, le rôle de prêtre, de temple, de fils de Dieu, de représentant du ciel, de corps de Christ, dans ma vie de tous les jours et qui nous appelle tout le monde à vivre. On a besoin d'une clé, on a besoin de quelque chose parce que notre réalité de vie fait que ça ne marche pas tout le temps aussi, de façon aussi beau qu'on a vu sur la vidéo, n'est-ce pas? La lumière, là, des fois, on ne la sent pas, hein? Je sais pas. Quand tu te lèves le matin, des fois, tu ne sens pas une lumière au-dessus de ta tête. Alors, on a besoin de trucs, mais en fait, c'est des trucs qui ne viennent pas de moi, qui viennent de Dieu lui-même. Parce que Dieu, il ne nous demande pas d'être ses lumières sur la terre sans nous aider à savoir comment l'être. En fait, il est venu naître en nous, son esprit est déjà en nous, mais on dirait qu'il s'éteint souvent, OK? Dans le sens qu'on ne le sent pas, puis bon. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Émerveillé ». Et la clé, c'est ça. C'est émerveiller. En fait, c'est tout ce qu'on a parlé depuis le début de la réunion aujourd'hui, ce que Véro a apporté, ce que Manon a apporté. L'émerveillement devant notre Dieu, pas le dimanche matin, mais lundi matin. Et tous les jours, tous les matins. En fait, toutes nos journées qu'on vit, s'émerveiller devant Dieu. La vie n'est pas facile. La vie est des épreuves. Des fois, c'est à cause de nous autres. Des fois, c'est à cause des autres. Des fois, c'est à cause de personne. Mais la vie n'est pas facile. Et Dieu le sait, ça. Okay? Mais Dieu nous a donné une clé. Une clé qui ne se vit pas juste le dimanche matin. Et cette clé-là, c'est quoi? Bien, c'est l'adoration. Hein? Donc, quand je parle d'être émerveillé, je parle de l'adoration. Mais pas l'adoration le dimanche matin ici. Notre adoration à tous les jours de notre vie, tous les jours de la semaine. pour moi, si on est un peuple qui adore, qui apprenne à adorer à chaque jour et à chaque moment de notre journée, on va tomber sur le dos de voir tout ce que Dieu fait sans qu'on ait à forcer pantoute. Vous allez voir, ça va être impressionnant de voir ça. Donc, l'adoration que je parle ici, bien entendu, c'est pas chanter en groupe, c'est même pas chanter tout seul ou avec un CD. C'est pas ça que je parle en ce moment. John Piper, j'ai lu un début de livre de lui qui parle de la prédication qui devrait toujours amener à l'adoration. J'ai bien aimé son sujet, même si c'est un gars que je trouve dur à lire parce que c'est très compliqué intellectuellement. Il dit « L'essence de l'adoration, c'est savourer ce que nous voyons en Dieu. » C'est beau, hein? Donc, savourer ce que Jésus a fait pour moi, la splendeur de sa création, l'espoir de l'éternité à venir, la reconnaissance pour tout ce qu'il nous donne à tous les jours, admirer l'être humain, même pas fin, mais fait à son image. Il y a toujours quelque chose de beau dans l'être humain quelque part, hein? Être renversé de savoir qu'il peut changer le mal en bien. Ça, c'est quand on est confronté avec le mal. Mais de savoir, quand notre cœur est en adoration, on sait qu'il y a la puissance de changer le mal en bien. Quand on n'est pas convaincu, on a juste à regarder notre propre vie. La plupart du temps, on va pouvoir trouver des bonnes pistes. Savoir qu'il est capable de changer le mal en bien. Être renversé par la science qu'il y a derrière tout ce qui nous entoure. Être abasourdi de l'ingéniosité des êtres humains pour inventer, découvrir toute la technologie qui est devant nos yeux. Tout ça, ça devient de Dieu. Et si notre cœur est à bonne place, ça devrait toujours nous emmener à l'adoration. Et j'ai juste nommé quelque chose de tout ce que Dieu a créé. On pourrait être négatif pour tout ce que je viens de nommer, hein? On pourrait être négatif aux êtres humains, comment ils agissent. Face à la technologie, que ça amène juste des mauvaises affaires. L'énergie atomique, ça a amené des bombes. On peut être négatif sur tout. Mais si on est en adoration devant Dieu, si on cherche constamment où est Dieu dans ce qu'on voit, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on lit, dans ce qu'on entend, ça va toujours nous emmener à admirer Dieu en quelque part. Et quand on ne voit vraiment pas Dieu dans quelque chose, admirer Dieu pour l'espoir que toute situation impossible et les plus ténébreuses qu'il y a, l'espoir qu'elle a. Et la Bible est remplie de ça, hein? C'est vous qui ne lisez pas beaucoup la Bible et vous n'êtes pas convaincu de ce que je vous dis. Lisez la parole. Vous allez voir les pires histoires dans la parole. Et Dieu change ça, ces pires histoires-là, en gloire, constamment. C'est l'œuvre de Jésus constante. On se laisse souvent arrêter dans notre émerveillement à cause du péché qui est autour, ou en dedans de nous autres. Hein? Et adorer, être des adorateurs, c'est quoi? C'est de changer ça, tout ce qui nous arrête, tout ce qu'on voit de noir, puis essayer de fixer les yeux sur Dieu, puis essayer de voir, là je parle dans notre quotidien, là, je ne parle pas de s'enfermer dans un monastère, dans notre chambre, dans un hôtel qu'on s'est fait dans la maison, je parle dans notre vie de tous les jours, au travail, dans le métro, peu importe où ce qu'on est, chercher. Où est Dieu dans tout ça et qu'est-ce qui est son plan dans tout ça? Puis comment il peut intervenir dans tout ça et comment il est beau aussi dans plusieurs choses qu'on voit. Une autre phrase qui dit « L'essence de l'adoration, c'est l'expérience du cœur qui magnifie la beauté et la valeur de Dieu. » C'est beau, hein? Des fois, on a de la misère à le voir, par exemple. Des fois, des situations peuvent faire que c'est dur à voir. Des fois, on est trop endormi, on n'a pas pris notre café encore, on n'est pas capable de le voir. Mais on peut toujours le trouver si on cherche. L'expérience du cœur, parce que c'est une question de cœur, qui magnifie la beauté et la valeur de Dieu. Lorsqu'on est ensemble, qu'on chante, qu'on danse, hein, il y a un élan. Et si on n'a pas d'élan, on peut chanter, on peut avoir l'air d'adorer, puis on n'adore pas pantoute en dedans. Okay? Donc, moi, je crois beaucoup à cette assemblée, à cette louange. Je crois en la puissance qu'il y a là-dedans. Moi, ça me resterait souvent. Okay? Mais tu peux être là, puis pas être en train d'adorer. Tu peux en fait avoir passé ta vie dans une église, puis jamais avoir vraiment adoré, parce que bon, tu chantes comme tout le monde. Okay? Mais quand tu es seul à seul avec Dieu, c'est là que notre test d'adoration se fait. Est-ce que je suis en adoration quand je suis seul avec Dieu? Amen. Dieu veut que ce soit ça. Qu'est-ce qu'il dit Jésus à la Samaritaine dans Jean 4, 23? L'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Et ici, on ne parle pas de chanter. On ne parle pas de contexte nécessaire. Hein? On parle de l'adorer en esprit. En esprit, ça veut dire vivre quelque chose à l'intérieur de nous. Ça peut s'exprimer à l'extérieur aussi, mais ça commence à l'intérieur, si ça s'exprime, ou ça peut ne pas s'exprimer, dépendamment de notre personnalité. Et en vérité, la vérité, c'est quoi? Hein? La vérité, c'est toutes les vérités bibliques, hein? Les révélations que Dieu nous fait. C'est tout ce qu'on, en regardant la création, qu'on se rend compte où Dieu est présent. C'est la vérité du salut en Jésus, de notre restauration, de la vie éternelle qu'il nous a donnée. Donc, ça peut être des vérités qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit, mais étant donné qu'on recherche constamment l'adoration, mais même dans les pires situations, on peut se souvenir que Dieu nous aime. On peut se souvenir que Dieu est mort pour nous. On peut se souvenir que ça va peut-être mal là, mais Dieu nous fait des promesses que ça va aller bien plus tard. Puis on peut se souvenir qu'on a l'éternité devant nous aussi, pour se réjouir devant Dieu, sans plus aucune contrainte. Quand on se met en position d'adorer, les chaînes tombent, les murs tombent, le désespoir tombe, la joie revient. Jésus, l'authenticité de l'adoration a tellement toujours été importante pour lui. Dans un passage, il dit « Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Quand Jésus il dit à la Samaritaine « Ce que mon Père recherche, c'est ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. » Ce n'est pas ceux qui font des cultes particuliers, tout ça, c'est ceux que c'est vrai dans leur cœur et qu'ils le vivent. Et ça ne peut pas se vivre juste dans des réunions. OK? C'est impossible. Ce n'est pas de l'adoration en esprit, en vérité. Il faut que ça se vive à tous les jours et à tous les moments de notre vie. Et il nous amène des petits indices. Dans le Proverbe 3:6, reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais Dieu dans tout ce que tu vis, dans tous les endroits où tu vas. Dans tous les métiers que vous avez, les carrières que vous avez, reconnaissez Dieu, parce que Dieu, en quelque part, il est là. Et cherchez-le afin d'être en adoration et en communication avec Dieu. C'est intéressant le proverbe 3, 1 à 6, si on lit « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. » Là, il donne « Si tu fais ça, là, si tu n'oublies pas mon enseignement, ton cœur garde mes commandements, mais il va prolonger la durée de tes jours, les années de ta vie et augmenteront ta paix. Okay? » Ensuite, il dit que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Ça veut dire que sois bon, okay? Sois constamment bon. Okay? Fais toujours quelque chose de bon. Et fais le bien pour ceux qui te font du mal. Change le mal en bien. Hein? Il dit donc, que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Puis là, il dit, qu'est-ce qui va arriver si tu fais ça? Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Non seulement Dieu, ça va lui plaire, puis ça va te connecter avec Dieu, mais en plus, les hommes autour de toi, ils vont le voir, puis ça va leur plaire aussi. Ça va les connecter à toi. Ils vont s'approcher, ils vont t'attirer à toi à cause de ça. Confie-toi finalement en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence, et c'est là qu'il dit, reconnais-le dans toutes tes voies, et là aussi il donne, qu'est-ce qui va arriver si tu le reconnais dans toutes tes voies, dans tout ce que tu vis, dans ton cadran qui sonne, ok? Il sonne pour te réveiller, puis vivre quelque chose. Hein? Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. Au lieu de forcer pour essayer constamment de te forger un sentier, tu penses qu'il va être heureux et qui va te rendre heureux, À place de tout ça, reconnais Dieu dans toutes tes voies. Et lui, il va te tracer un sentier. Puis là, c'est sûr que tu vas être heureux. Parce que ses sentiers sont toujours bons. Ça va être moins forçant. C'est moins forçant de chercher Dieu que de se tracer des sentiers. Adorer Dieu que d'essayer de faire et de faire et de faire. Parce que Dieu devient le chef d'orchestre de notre vie. Puis à ce moment-là, il nous trace des sentiers. Il nous fait vivre des coïncidences divines, qui ne sont pas des coïncidences. Il nous fait vivre plein de choses. Il prépare d'avance des œuvres pour qu'on puisse les faire et être heureux de les faire et se réjouir de les faire. Fait que c'est ça qu'il dit à la femme. Crois-moi, l'heure vient. OK? Juste avant qu'ils disent en esprit, en vérité. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Donc, c'est ni au cerf blanc, ni à l'église, ni dans une cathédrale. Il dit, le temps vient où ce ne sera pas dans un endroit. Pas dans un endroit où il y a nécessairement des bons musiciens, okay, ou des bonnes chanteurs comme Véronique, okay, ou des endroits où il y a des pasteurs, puis des... Pas là. Okay? Le jour vient où ce que ça ne sera pas dans ces endroits-là que vous allez adorer le Père, mais ça va être tous les jours de votre vie, à tout moment de votre vie, en esprit et en vérité. C'est ça que Dieu recherche et c'est ça qui fait que notre vie est victorieuse. Amen. John Piper dit, « Dans le Nouveau Testament, l'adoration apparaît donc comme une pratique désinstitutionnalisée, délocalisée et intériorisée. Son sens n'est plus du tout rattaché aux cérémonies, aux saisons, aux lieux et aux formes, mais il est redirigé vers ce qui se passe dans le cœur, non seulement le dimanche, mais tous les jours de la semaine et à tous les moments de la vie. » C'est ce que Paul dit dans cette phrase-là. « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ou encore ici, lorsqu'il dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Donc, tout c'est quoi? C'est tout. Tout ce qu'on fait, qu'on mange, peu importe, hein? qu'on est en train de travailler, qu'on est en train de s'amuser, qu'on est en train de jaser, qu'on est en train de s'inquiéter, même quand on est en train de s'inquiéter, notre élan devrait être de chercher Dieu et savoir comment je peux t'adorer à travers mon inquiétude. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle ta fidélité. Tu es tellement fidèle. Hein? Moi, ça m'est arrivé probablement des centaines de fois dans ma vie pour avoir oublié à cause de mes inquiétudes la fidélité de Dieu. Et si je ne m'arrête pas pour me souvenir qu'il est tellement fidèle et qu'il a toujours été là, dans toutes les impasses, dans tous les moments difficiles de ma vie, si je ne m'arrête pas pour y penser, je vais passer à côté. Mais si je m'arrête pour y penser, l'espoir renaît. Et j'ai tellement vécu ça souvent. Quelque chose de noir, pesant, lourd, se transforme en « Ah, c'est vrai, Dieu est là. » On se relève, on continue. L'adoration consiste à connaître, à chérir et à démontrer la valeur suprême et la beauté de Dieu. L'adoration consiste à agir d'une manière qui démontre la valeur que le cœur accorde à la gloire de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Ça devrait être notre style de vie à tout moment de notre journée. On devrait agir, okay, pour démontrer la valeur que notre cœur accorde à qui Dieu est pour nous. Ce Dieu-là qui nous a donné la vie, le salut et l'éternité. Amen. Il y a un autre passage qui démontre l'adoration. C'est ce passage-là où Dieu dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Okay? » Ici, il n'est pas en train de dire qu'il faut être moins sous de l'esprit que de vin. Ben non, il nous encourage à être vraiment sous de l'esprit. Là. Il veut qu'on soit remplis et que ça nous pénètre partout. Qu'est-ce qui arrive avec l'alcool quand on est ivre? Hein? Alors, elle agit sur notre cerveau, c'est toutes les parties de notre corps. Hein? Puis des fois, on peut être chambranlant. Tout s'en ressent. Dieu nous invite à être remplis de l'esprit de la même façon. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la dépose. Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit-Saint. Remplis de l'Esprit-Saint, c'est dans notre vie de tous les jours. Sincèrement, ça ne donne absolument rien de se remplir de l'Esprit-Saint dans un monastère et de repartir, puis de laisser l'Esprit-Saint de côté, puis faire notre vie comme si l'Esprit-Saint n'existait pas. On a vécu ça pour rien. Le but, c'est d'être rempli d'Esprit-Saint dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. C'est ça qui fait toute la différence dans notre vie. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai souligné constamment et pour tout. Laissez l'adoration s'imprégner dans tous les domaines de la vie. Le Nouveau Testament nous montre en aucun temps comment faire un culte d'adoration. Ce qu'on fait ici le dimanche, le matin, là, la Bible ne nous montre pas comment faire ça. Ça dépend des cultures, ça dépend des générations, ça dépend des contextes. Hein, les cultes d'adoration, ça dépend d'un paquet d'affaires, des époques. Mais par contre, l'adoration que Jésus parle, quand il dit d'adorer en esprit et en vérité, ça, le Nouveau Testament nous en parle constamment, d'un couvert à l'autre. Parce que c'est de là que tout part. Notre vie d'adoration à tous les jours de notre vie qui fait toute la différence. Là, c'est facile à dire. Est-ce que ça coule tout seul, cette affaire-là? Hein, si on veut être honnête, ça ne coule pas tout seul. Okay? La plupart d'entre nous, quand on se lève le matin, on n'a pas le cœur à adorer. Okay? Pourquoi? À cause que notre cerveau il est bien mêlé le matin. Les embranchements ne sont pas faits comme il faut, puis ça nous prend du temps. Hein? Il y en a que c'est plus long que d'autres. Là. Il y a un effort à faire. Puis pas juste le matin, là. Quand on vit des épreuves, quand il arrive des choses, il y a un effort à faire. Moi, je vous dirais que c'est la foi. C'est ça, la foi. La foi, c'est d'être convaincu que l'effort vaut la peine et que de cet effort-là à adorer Dieu et à se positionner en position d'adoration dans notre vie de tous les jours à Dieu, cet effort-là va nous sauver bien des efforts. Va nous sauver tous les autres efforts. Parce que de l'adoration découlent les solutions, la guérison, la délivrance, les situations. Quand on trouve la vie plate, puis qu'on a une vie d'adoration, la vie n'est plus plate. Dieu nous met des choses devant nous, il se passe des choses, la vie devient excitante, la vie devient belle. Tout est transformé par une vie d'adoration envers Dieu. Donc, il faut se le dire, c'est pas naturel, il faut faire le pas de foi. C'est pas naturel à cause de notre nature, ça va être naturel quand on va être au ciel. Mais quand on fait ce pas-là, ça change tout. Amen. Dans Philippiens, ça dit « Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, dans ma vie et même dans ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. » Quand même la mort, c'est plus un motif pour ne pas adorer Dieu. Au contraire, Paul dit, ouais, la mort, c'est comme, wow, Seigneur, je t'aime. Merci pour la mort que je vais vivre. Là, il n'y a plus rien qui t'arrête. Adorer Dieu, hein? On peut adorer Dieu dans toutes les circonstances. Et c'est ça qui va nous relever. C'est ça qui va nous donner l'espoir. C'est ça qui va nous donner l'élan. C'est ça qui va nous raviver, qui va nous transformer. Hein? Puis c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, ça a été, c'était bien gros, Véro, t'es inspiré. Maintenant aussi, dans ce qu'elle a apporté, ça allait tellement avec ça. Où c'est que ça commence? Bien, ça commence par Jésus. Hein? Donc, un effort qui commence par Jésus, parce qu'il est le commencement de tout. Il est mort pour nous donner la vie. Et il est ressuscité pour nous donner l'espoir et la résurrection. Amen. Donc, tout, si vous ne savez pas par où commencer pour dire « j'adore Dieu », commencez par vous souvenir de ce que Jésus a fait pour vous. Et de là, vous allez tomber dans une transe d'adoration. Peut-être pas tout de suite. Dans ce temps-là, il faut continuer. Des fois, ça prend plus de temps. Mais on commence par Jésus. Puis après ça, on se rend compte de tout ce que Jésus a fait pour nous. On se rappelle des choses qu'il a faites dans le passé. On lit la parole pour voir ce qu'il a fait dans l'histoire. OK? Et on croit que de ce qu'il va faire aujourd'hui pour nous. Amen. Savourer Christ, chérir Christ, être satisfait par Christ, c'est aussi l'essence profonde de l'adoration. Donc, clé pour être l'Église que Jésus veut, c'est l'adoration dans notre vie à tous les jours. C'est ce que Pierre a vécu lorsqu'il a dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Son pas de foi à Pierre, ça a été de suivre Jésus. Et ce qui est venu tout seul, c'est « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Wow! Hein? Il était en adoration quand il a dit ça. Là. C'est de l'adoration, ça. Donc, clé, l'adoration dans notre vie à tous les jours. Et quand est-ce que ça commence? Le matin, en débutant la journée. Amen. La Bible est remplie de versets où que tout commence le matin. Hein? Elle dit à Moïse, tu vas monter au Sinaï le matin. Elle dit à Josué, le matin, vous allez aller faire le tour de Jéricho 7 fois. Va trouver Pharaon le matin. Hein? Je me rappelle qu'à la mission, tous les matins, on commençait par un temps d'adoration ensemble. Et tout le reste de la journée, on n'était pas enfermés. On faisait des choses partout dans la ville pour apporter la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, le bien de Dieu, l'espoir de Dieu partout. Mais tous les matins, on commençait et ça fait toute une différence. Les hommes qui participent le jeudi matin de 6 à 7 ici, là, tous ceux qui ont passé là, ça fait 20 4 ans qu'on fait ça, normal, je pense. Hein, au moins, depuis 97 qu'on fait ça. Tous les hommes qui ont passé là, ils ont dit, ça fait tellement une différence. Ma journée est complètement différente quand je viens prier avec vous de 6 à 7. De se reconnecter à Dieu dès le matin. Donc, quand est-ce commencer? On commence le matin. Ça fait toute la différence. Quelques versets. Voici ce que je veux méditer pour garder l'espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Il faut aller y chercher. Chaque matin, il se renouvelle. Que ta fidélité est grande. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. En anglais, il dit, je me tourne vers toi et je regarde, j'observe qu'est-ce qui se passe. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font les disciples. Quant à moi, je chanterai ta force dès le matin. Je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse, un refuge, hein, la louange du matin quand je suis dans la détresse. Toi qui es ma force, c'est pour toi que je veux chanter. Car Dieu, mon Dieu, si bon est ma forteresse. Je chanterai la bonté et le droit. C'est toi, Éternel, que je célébrerai. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays pour supprimer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'injustice. Qu'est-ce que je voulais apporter dans ce verset-là? Chaque matin, je réduis au silence tous les méchants du pays. Hein? Les méchants, ça, c'est toutes les bébites que vous avez dans votre tête en vous levant le matin. C'est le matin qu'il faut s'en débarrasser. Attendez pas au souper le soir. Vous allez avoir vécu toute la journée avec ça. Le matin, c'est là qu'on détruit les méchants qui viennent nous déranger afin qu'on soit libre de vivre une vie avec Dieu toute la journée. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Vers le matin, là, je voulais juste vous donner un verset pour notre modèle qui est Jésus. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Frères et sœurs, l'adoration dans notre vie de tous les jours, c'est la clé. Tout ce que vous cherchez à résoudre, à vivre, adorons Dieu le matin. Dès le matin, c'est-à-dire, mais jusqu'au soir, pas juste le matin. Dès le matin, mais commençons le matin pour enlever les bébites et se préparer, se connecter avec Dieu. Et vivons cette adoration-là toute la journée. Et pensons-y la journée. Faites pas comme certains font dans la culture québécoise. Je fais ma prière le matin, je fais ma prière le soir. Non, c'est un temps d'adoration qui dure toute la journée. Dans tout ce qu'on vit, soyez conscients que Dieu est là. Il est votre appui, il est votre soutien constamment. Et vous allez voir, ça va changer tout. Et on va être ces phares-là dans dans notre région, dans la Naudière. Si on est en adoration, on est une bombe pour la Naudière, une bombe d'amour et de restauration. Je vous laisse avec ce verset-là. Je ne ferai pas finalement, Chloé, la chanson que je voulais faire. On n'aura pas le temps. Le règne, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront attribués aux membres du peuple saint du Très-Haut. Le règne de ce peuple est éternel et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront. Vous êtes le peuple, nous sommes le peuple de Dieu. Attendons pas à la fin des temps pour régner, c'est maintenant que ça se passe. Mais restons connectés en adoration devant notre Dieu constamment. Amen. On va juste prier pour terminer. Je vais demander à ma narratrice de venir prier pour terminer. Elle était belle, sa voix, hein? Lise, elle n'aime pas sa voix. Elle dit, « Ah, j'aime pas ma voix. »
Oui, mon Dieu, je te demande de ne pas faire de nous autres des innocents. Qu'on dit des choses, mais qu'on ne les fait pas. Qu'on te dit des choses qu'on ne pense pas dans le plus profond de notre cœur. Fais qu'au moins avec toi, on puisse être honnête. Qu'on puisse reconnaître à chaque matin qu'on a besoin de toi. Qu'on puisse reconnaître à chaque soir que tu n'as pas été là toute la journée. Et te demander que demain, ça y aille mieux. Parce que c'est comme ça qu'on avance. Puis on veut te ressembler, puis on a encore des croûtes à manger. On te demande de nous aider à ne pas être centrés sur nous autres, mais être centrés sur toi puis sur les autres. Puis on a besoin de s'approcher de toi pour voir notre égoïsme. Change nos cœurs. Change notre façon de voir le monde. Change notre façon d'agir avec le monde. C'est ça, mourir à soi-même. Puis c'est quand on meurt à nous-mêmes qu'on te ressemble le plus. Fait qu'on te demande de nous aider à chaque matin à mourir à nous autres pour être comme toi. Aide-nous chaque matin. Puis chaque soir, encourage-nous qu'on a fait un petit bout de plus. Aide-nous, Seigneur, on a tellement besoin de toi pour être les lumières que tu veux qu'on soit. Pour qu'on puisse faire les œuvres que tu as préparées pour nous autres. Pas ce qu'on a le goût de faire, mais ce que toi, tu veux qu'on fasse. Même si c'est bien nos désirs, les désirs de notre cœur, ce n'est pas toujours ta volonté. Aide-nous à vraiment être connectés avec toi puis faire ce que tu veux qu'on fasse de la façon que tu veux qu'on le fasse. Je te demande ça, mon Dieu, au nom de ton Fils Jésus. Amen.